Chapitre 33. Star. Elle attendait dans une voiture et elle n'aimait pas ça. Elle détestait attendre, dans tous les cas. Mais la Wheeze qu'elle avait prise transformait ce moment en épreuve. Elle devait faire attention à ne pas grincer des dents. Elle ignorait ce que Gérald lui avait fait, mais ses gencives étaient encore douloureuses. Elle avait mal partout, d'ailleurs, en y réfléchissant. La Wheeze n'était sans doute pas une bonne idée. La voiture appartenait à une femme que Gérald avait appelée Molly. Une bagnole japonaise banale, comme celle des cadres en costume, plutôt pas mal, mais sans rien de flamboyant. Elle sentait le neuf et leur avait permis de quitter Baltimore à toute vitesse. Malgré l'ordinateur intégré, la femme l'avait conduite en personne, jusque dans l'étendue. Et elle était désormais garée sur le toit d'un bâtiment de 20 étages qui devait se situer près de l'hôtel où Pryor l'avait emmenée parce qu'elle voyait cet immeuble dingue, celui qui ressemblait à une montagne avec une chute d'eau. Il n'y avait pas beaucoup d'autres voitures ici, et elles étaient recouvertes de neige comme si elles n'avaient pas roulé depuis longtemps. À l'exception des deux types dans la cahute à l'entrée, elles n'avaient croisé personne. Elle se retrouvait là, parmi tous ces gens, dans la plus grande ville du monde, seule, à l'arrière d'une voiture, à devoir attendre. La femme n'avait pas dit grand-chose lorsqu'elles avaient quitté Baltimore, à part deux ou trois questions de temps en temps. Mais la Wheeze avait empêché Mona de se taire. Elle avait parlé de Cleveland, de la Floride et d'Eddie et Pryor. Puis, elles étaient arrivées ici et s'étaient garées. Molly était partie depuis au moins une heure maintenant. Elle avait emporté sa valise. Le seul truc que Mona avait pu lui tirer, c'était qu'elle connaissait Gérald de longue date, ce que Pryor ignorait. Il commençait de nouveau à faire froid dans la voiture et Mona passa sur le siège avant pour allumer le chauffage. Elle ne pouvait pas simplement le laisser au ralenti, car il risquait de vider la batterie et dans ce cas, avait dit Molly, elle serait vraiment dans la merde. Parce que dès que je reviens, on se tire en vitesse. Puis, elle avait montré à Mona le sac de couchage sous le siège conducteur. Elle mit le chauffage à fond et leva les mains devant l'aération, puis elle tripota les boutons de la vide, près du moniteur du tableau de bord, et trouva des infos. Le roi d'Angleterre, très vieux, était souffrant. Une nouvelle maladie avait fait son apparition à Singapour. Elle n'avait encore tué personne, mais on ignorait son mode de transmission et comment la soigner. Des rumeurs faisaient état d'un gros affrontement en cours au Japon. Deux groupes de yakuza qui essayaient de s'entretuer, mais les informations restaient fragmentaires. Eddie adorait raconter n'importe quoi à propos des yakuza. Puis des portes s'ouvrirent et Angie apparut au bras d'un magnifique noir. Et la voix off de la vidéo expliqua qu'il s'agissait d'un direct, qu'elle revenait juste dans l'étendue après de brèves vacances dans sa maison de Malibu suite à un séjour dans une clinique de désintoxication. Angie était superbe dans cette épaisse fourrure. Mais la vidéo était terminée. Mona repensa à ce que Gérald avait fait. Elle se toucha le visage. Elle éteignit la vidéo, puis le chauffage, et retourna sur la banquette arrière. Elle essuya avec un coin du sac de couchage la condensation sur la fenêtre. Elle leva les yeux vers le bâtiment au flanc de montagne tout allumé, par-delà la chaîne qui pendait au bord du parking sur le toit. On aurait dit un pays entier, là-haut. Le Colorado ou un truc dans le genre. Comme dans la Steam où Angie avait rencontré cet homme à Aspen, avant évidemment que Robin n'arrive. Mais elle ne comprenait toujours pas cette histoire de clinique qu'avait mentionné le barman, en expliquant qu'Angie y était allée car elle était accro. Mais puisque le mec des infos en avait parlé aussi, ça devait être vrai. Mais pourquoi quelqu'un comme Angie, avec une telle vie et un petit ami comme Robin Lanier, prenait-il de la drogue? Mona secoua la tête, le regard sur l'immeuble. Ravie de n'être accro à rien. Elle avait dû s'endormir quelques minutes en pensant à Lanette, parce que lorsqu'elle tourna de nouveau les yeux vers le bâtiment, il y avait un hélicoptère, un gros, d'un noir étincelant, en vol stationnaire au-dessus de l'immeuble montagne. Il était beau, carrément impressionnant. Elle avait croisé quelques durs à Cleveland, des nanas que personne n'emmerdait, mais cette Molly décrochait le pompon. Elle repensa à l'arrivée de Pryor dans la pièce, puis ses cris. Elle se demanda ce qu'il avait pu finir par avouer, parce qu'elle l'avait entendu parler, et Molly avait alors arrêté de lui faire mal. Il l'avait laissé attaché sur le siège et Mona avait questionné Molly pour savoir s'il allait se libérer, selon elle. « Soit ça, avait répondu Molly, soit quelqu'un va le retrouver, ou bien il va se déshydrater. » L'hélico se posa et disparut. C'était un gros appareil avec les petites hélices à chaque bout. Et elle demeura, là, à attendre, sans savoir quoi faire d'autre. Lanette lui avait appris qu'il fallait parfois lister ses atouts. Les atouts, c'était ce qui était positif. Et oublier le reste. D'accord. Elle avait quitté la Floride. Elle était à Manhattan. Elle ressemblait à Angie. Elle s'arrêta. S'agissait-il d'un atout ? Bon, en examinant la situation sous un autre angle, elle avait eu droit à une chirurgie esthétique qui coûtait une fortune et possédait désormais une dentition parfaite. De ce point de vue-là, ce n'était pas si mal. Par rapport aux mouches dans le squat, carrément. Si elle dépensait l'argent qui lui restait chez un coiffeur et dans du maquillage, elle pourrait faire en sorte de beaucoup moins ressembler à Angie, ce qui devait être une bonne idée. Car il y avait peut-être des gens qui la recherchaient. L'hélicoptère décolla et réapparut. Hé ! À deux pâtés de maison de là, et 50 étages plus haut, le nez de l'appareil pivota vers elle et plongea. C'est la Wiz. Il vacilla puis descendit. La Wiz, ce n'est pas réel. Tout droit dans sa direction, il grandit vers elle. Mais c'est la Wiz, pas vrai ? Puis, il disparut derrière un autre immeuble et ce n'était que la Wiz. Il tourna encore 5 étages au-dessus du toit du parking et il continua à descendre. Et ce n'était pas la Wiz, c'était sur elle. Un fin rayon blanc perçant le ciel à la recherche de la voiture grise. Et Mona ouvrit la portière et roula dans la neige, toujours à l'ombre de la bagnole. Tout autour d'elle, le tonnerre des pales de l'appareil, ses moteurs. Pryor ou quelqu'un pour qui il bossait. Et il la poursuivait. Puis, le projecteur s'éteignit, le bruit des rotors changea de tonalité et l'hélico descendit vite, trop vite. Il rebondit sur ses patins d'atterrissage, s'écrasa de nouveau et ses turbines cessèrent de fonctionner et crachèrent une flamme bleue. Mona était à 4 pattes près du pare-choc arrière de la voiture. Elle dérapa en tentant de se relever. Un bruit semblable à un coup de feu résonna. Un morceau carré de la coque de l'hélicoptère explosa et alla glisser sur le béton couvert de sel du parking. Un toboggan d'évacuation d'urgence orange se déploya en gonflant comme un jouet de plage. Mona se releva plus prudemment en s'accrochant au pare-choc de la voiture. Une silhouette sombre et emmitouflée passa ses jambes sur le toboggan et descendit en glissant comme un enfant sur une aire de jeu. Une autre la suivit, celle-ci vêtue d'une épaisse veste à capuche de la même couleur que le toboggan. Mona frissonna tandis que celle en orange éloignait l'autre de l'hélico noir et l'emmenait vers elle sur le toit. C'était... Mais oui !
Vous montez toutes les deux à l'arrière !
Dit Molly en ouvrant la portière du conducteur. C'est vous ? Parvint à dire Mona au visage le plus célèbre du monde.
Oui,
répondit Angie en dévisageant Mona. Il semblerait. Allez ! Lança Molly avec une main sur l'épaule de la star. Montez !
Votre martien noir doit déjà être en train de se réveiller.
Elle jeta un coup d'œil vers l'hélicoptère. On aurait dit un immense jouet immobile, sans lumière, comme abandonné et oublié par un gigantesque enfant.
« J'espère bien !»
dit Angie en grimpant à l'arrière de la voiture. « Toi aussi, chérie !» ajouta Molly en poussant Mona vers la portière ouverte.
« Mais enfin, monte !»
Mona s'exécuta. Elle sentit le parfum d'Angie, son poignet frôla la douceur surnaturelle de cette épaisse fourrure.
« Je viens de vous voir !» s'entendit-elle dire. « Sur la vide !»
Angie ne répondit pas. Molly s'installa sur le siège du conducteur, referma la portière et démarra le moteur. La capuche orange relevée serrait son visage pour former un masque blanc au regard argenté et vide. Puis elles roulèrent vers la rampe couverte et prirent le premier virage. Elles descendirent ainsi 5 étages dans une spirale étroite. Et Molly les fit passer entre des rangées d'appareils plus gros sous des diagonales de néon vert.
« Des parapentes ?» dit Molly.
« Vous avez déjà vu du matos de parapente dans l'Envoy ?»«
Non, »
répondit Angie. « Si la sécurité de Nathan a... Ils sont peut-être déjà là-haut. » Elle s'arrêta juste après un gros aéroglisseur allongé et carré, blanc, avec un nom peint en lettres bâton bleu sur les portières arrière.
« Il y a écrit quoi ?»
demanda Mona avant de se sentir rougir.
« Cathode cathé », dit Angie.
Mona songea qu'elle avait déjà entendu ce nom. Molly était dehors en train d'ouvrir les grosses portières, de tirer deux petites rampes en plastique jaune. Puis, elle retourna dans la voiture, recula, passa la marche avant et fit monter le véhicule dans l'aéro. Elle abaissa la capuche orange et secoua la tête pour libérer ses cheveux.
« Mona, tu crois que tu pourrais sortir, remonter ces rampes ?
Elles ne sont pas lourdes. » Ça ne ressemblait pas à une question. Elle n'était pas lourde. Elle grimpa à l'intérieur derrière la voiture et aida Molly à refermer les portières. Elle sentait Angie, là, dans le noir. C'était vraiment Angie.
Devant.
Attache-toi. Accroche-toi. Angie, elle était assise juste à côté d'Angie. On entendit comme une soufflerie lorsque Molly emplit le coussin d'air, puis elles entamèrent la descente de la rampe en spirale.
« Votre ami, » dit Molly, « il est réveillé, là. Il ne peut toujours pas vraiment bouger. Encore un quart d'heure. »
Elle quitta de nouveau la rampe et, cette fois, Mona ne savait plus à quel étage elle se trouvait. Celui-ci était rempli de voitures de luxe compactes. L'aéro emprunta l'allée centrale en vrombissant, puis prit à gauche.
« Vous aurez de la chance s'il ne nous attend pas dehors, » dit Angie.
Molly s'arrêta à 10 mètres d'une grande porte en métal aux diagonales jaunes et noires.
« Non, »
dit Molly en prenant une petite télécommande bleue dans la boîte à gants. « C'est lui qui aura de la chance s'il ne nous attend pas dehors. » La porte s'éjecta de ses montants avec un éclair orange et un bruit qui frappa le diaphragme de Mona comme un véritable coup de poing. Elle s'écrasa dans la rue humide avec un nuage de fumée, puis elles passèrent dessus avant de tourner et d'accélérer.
« C'est vraiment bourrin ?»
dit Angie en riant.
« Je sais, » avoua Molly, concentrée sur sa conduite. « C'est parfois nécessaire. Mona, raconte-lui Pryor. Pryor est ton petit copain. Ce que tu m'as dit. »
Mona n'avait jamais été aussi intimidée de sa vie.
« S'il te plaît, » dit Angie.
« Raconte-moi, Mona. »
Comme ça, son nom.
Angie Mitchell avait prononcé son nom, alors qu'elle se trouvait juste à côté. Elle était à deux doigts de s'évanouir.